France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Ses amis l'appelaient le prince charmant. De fait, le prince de ligne est non seulement un des meilleurs témoins du XVIIIe siècle, il en est aussi le type le plus accompli, autant par sa culture universelle que par son parfait usage du monde. Homme de guerre, diplomate, poète, voyageur, épistolier, moraliste, grand amateur de femmes, il invente l'aventure européenne et mieux encore le cosmopolitisme.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Goethe a dit de lui qu'il était l'homme le plus joyeux du XVIIIe siècle. Et Madame de Staël l'a célébré comme unique, en disant qu'elle ne pouvait pas espérer que le plaisir qu'elle avait trouvé à son entretien se renouvelât jamais. Quant à Catherine II, impératrice de Russie, elle l'a dépeint comme l'un des êtres les plus plaisants et les plus aisés à vivre qu'elle ait jamais vu. Quel est donc l'homme ? Quel est l'écrivain dont le sillage n'a pas cessé d'être entouré d'un tel murmure de louanges, d'adhésion et de sympathie? Eh bien, ce sera notre héros du jour, Charles-Joseph, prince de Ligne, que l'Europe tout entière, celle des cénacles, des cours, des bivouacs et des alcôves, désigna communément en son temps comme le prince rose, car c'était la couleur qu'il attribuait à ses armoiries et imposait à ses laquais. Son œuvre écrite, très profuse, ses mémoires, ses correspondances et ses pensées, et même ses chansons, méritent toutes les attentions. Sa popularité dépassa en son temps les limites du monde privilégié des pouvoirs et de l'argent, où son destin l'avait installé pour le fixer comme un symbole d'un cosmopolitisme européen à son apogée. Non pas qu'il ait été protégé contre les chagrins, mais il était prodigieusement doué pour le bonheur. Il ne cachait pas qu'il avait choisi toujours explicitement de préférer les remords aux regrets. On a pu dire que sa vie fut un perpétuel étourdissement et qu'il ne craignit jamais rien tant que la gravité. Symboliquement, il mourut quasi octogénaire parmi les balles du congrès de Vienne de 1814 qui mit fin à l'aventure napoléonienne. « Le congrès ne marche pas, il danse », s'était-il écrié. Il avait alors 79 ans, un âge fort avancé pour l'époque. Avec Benoît Florin, qui consacre au prince de Ligne la biographie que celui-ci méritait, nous allons, je l'espère, le faire surgir avec ses pleines couleurs, le rose et aussi toutes les autres. Benoît Florin, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Je vous propose, pour ouvrir notre conversation, un extrait d'une causerie d'Émile Henriot sur le prince de Ligne qui remonte au 14 août 1956. Émile Henriot qui était le grand critique littéraire au mi-temps du XXe siècle, entre le temps avant la guerre et le monde ensuite. Émile Henriot propose du prince de Ligne ce portrait dont vous nous direz ensuite, Benoît Florin, si vous l'agréez.
Il est le modèle accompli de l'écrivain dont l'œuvre est morte, mais dont la personne survit. Et la sienne survit comme le type achevé de l'homme d'esprit du XVIIIe siècle, grand seigneur, soldat, voyageur, courtisan, curieux, diplomate, épistolier, poète, mémorialiste, bon soupeur, amateur de femmes, européen dans la pleine acception du mot, comme il était plus facile de l'être en ce temps-là que de nos jours, autrichien en Russie et en Allemagne, viennois à Paris et français partout, spirituel, léger, observateur, athée, moraliste, susceptible d'enthousiasme, dévoré d'ambitions diverses, amoureux de la gloire, brave au combat et gaillard dans l'alcôve. On ne sait ce qu'il lui a manqué, si ce n'est peut-être l'occasion pour être un grand homme, un grand écrivain, ou peut-être simplement un héros. Bref, il ne fut qu'un amateur en toutes choses. Et comme tel, il est délicieux. Ses amis l'appelaient le prince charmant. Il méritait ce titre, qui lui reste encore aujourd'hui, car le prince continue d'avoir des amis et il s'est fondé en Belgique, dont il était originaire, une société des amis du prince de Ligne qui entretient avec fidélité son souvenir et qui continue de publier ses innombrables écrits. Il a inséré une vie qui ne fut qu'un long bonheur continué, fait de plaisir. Et il ne connut que deux tristesses. L'une fut la mort de son fils, et l'autre de n'avoir pas été choisi pour servir contre Napoléon. Le prince de Ligne a eu tout ce que son époque charmante et facile put réserver à ses élus. D'heureuses campagnes, les plus jolies femmes, la faveur des rois, l'amitié des beaux esprits, et la possibilité de dépenser en bagatelle une vingtaine de millions pour le moins, jusqu'à temps que de mourir à peu près sur la paille. Mais comme il avait bien vécu.
Benoît Fleurin, vous le retrouvez dans ce portrait, cet homme avec lequel vous avez passé tant de temps, et j'ai eu le sentiment que c'était non sans quelque bonheur que vous l'avez fréquenté.
Effectivement, c'est très intéressant de suivre la biographie d'un homme comme celui-ci. Il faut bien sûr remettre un peu dans l'ordre ses mémoires foisonnantes et parfois un petit peu touffues, et remettre la chronologie en place. Mais c'est bien un homme à femme, un homme de guerre, un homme de lettres, et surtout un homme d'esprit, à une époque où l'esprit était français. Effectivement, une existence extraordinaire. C'est un témoin de son temps. Et même s'il n'a pas été le héros qu'il voulait être à la guerre, il reste quand même un grand écrivain de langue française.
Peut-être faut-il définir ce qu'était un homme d'esprit à l'époque. Il y avait, au fond, une sorte de distinction avec les hommes d'académie, les hommes de lettres qui voulaient s'imposer comme écrivain. Un homme d'esprit, c'était un amateur de bons mots, de portraits piquants, de récits brefs, avec des improvisations qui se voulaient désinvoltes. Tout ce qui pouvait heurter, par exemple, un homme comme Jean-Jacques Rousseau.
Alors effectivement, Jean-Jacques Rousseau avait plutôt la parole un petit peu triste. Il souffrait d'une maladie de la persécution. Il ne se sentait pas légitime de par son milieu. Le prince de Ligne, lui, avait la parfaite aisance de celui qui est né avec une cuillère dans la bouche. Et dans son milieu, il fallait absolument avoir de l'esprit.
Et ne jamais insister sur la mélancolie.
Et ne jamais insister. Il était poli d'être gai. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, il fallait partir à la guerre en chantant. Et c'est toute la différence, effectivement, de son milieu par rapport à la bourgeoisie ou aux intellectuels ou scientifiques qu'on pouvait rencontrer à même époque.
Alors, cette cuillère d'argent, explicitons cela, si vous le voulez bien. Quelle est l'origine du prince de Ligne? C'est un grand homme en Belgique aujourd'hui encore, plus peut-être qu'en France?
Alors, il est plus connu en Belgique, même s'il n'est pas né belge. À l'époque, la Belgique n'existait pas, c'était les Pays-Bas autrichiens.
Le Hainaut.
Il est effectivement de la plus grande famille du Hainaut. Les princes de Ligne étaient princes depuis à peu près 2 siècles. Ils étaient grands d'Espagne depuis 1 siècle. Ils étaient donc princes du Saint-Empire, attachés à la dynastie des Habsbourg qui régnait sur les Pays-Bas autrichiens. Ils étaient immensément riches, première fortune peut-être de l'actuelle Belgique, avec un magnifique château qui s'appelle Belœil, qui courait sur près de 1000 hectares. Le Chantilly belge, presque le Versailles belge, pas tout à fait, mais presque, entre Chantilly et Versailles.
On a un beau texte d'ailleurs de notre homme lui-même qui s'appelle « Coup d'œil sur Belœil ».
Effectivement, il a consacré un livre, il adorait écrire, et il a consacré un livre à sa propriété, une propriété que son père a beaucoup développée et embellie malgré son avarice notoire. Et lui-même a dépensé beaucoup également sur cette magnifique demeure qui existe toujours, bien sûr.
Évoquons son enfance, sa formation. On a souvent cité ce propos qu'il a eu et qui est un peu saisissant. « Mon père ne m'aimait pas, je ne sais pas pourquoi, puisqu'il ne me connaissait pas. »
Alors c'est assez curieux, effectivement. Il est l'unique héritier de cette grande famille. Sa mère est morte quand il avait 4 ans. Son père ne l'aime pas, très certainement. C'est un homme froid, c'est un homme de guerre. Il terminera lui-même maréchal d'Empire. Mais curieusement, on pourrait penser au syndrome de Blanche-Neige, c'est-à-dire la marâtre qui n'aime pas sa belle-fille. Quand on voit le père et le fils, il semblerait que le père était jaloux de son fils, en quelque sorte, très tôt.
Pourquoi ?
Et parce que son fils était la jeunesse, parce que son fils allait l'enterrer, parce que cet homme était sans doute relativement aigri par sa carrière militaire finalement assez moyenne.
C'est le cas cas de la plupart des fils qui enterrent leur père, sauf exception malheureuse.
Effectivement, mais là, on n'était pas encore à l'époque où il fallait s'intéresser aux enfants. On ne s'intéressait pas aux enfants. On leur donnait des précepteurs et en l'occurrence des gouverneurs, puisque c'était une famille princière.
De qualité médiocre en général.
Alors, le père du prince de Ligne a cherché à lui donner des précepteurs de qualité, mais il faut dire qu'il s'est carrément trompé. Il y en a une demi-douzaine, entre l'âge de 5 ans et celui de 15 ans, et il a alterné les abbés et les officiers. Malheureusement, il est assez mal tombé. Les abbés étaient ou lubriques ou incompétents, et les officiers étaient ou pédophiles ou trop violents. Et finalement, le dernier qu'il a eu vers l'âge de 12 ou 13 ans, l'abbé de la Porte, qui est un jésuite, comme il se doit à l'époque, a été un excellent précepteur, l'a initié au déisme de la langue française, et on a fait cet amoureux de notre langue, et lui a donné toute l'éducation à laquelle il avait droit.
Et c'est son père qui organise son mariage dans des conditions qui sont, peut-on dire, d'époque pour ce type de milieu.
Alors, il reproche à son père de l'avoir marié un petit peu de force à une princesse de Liechtenstein à Vienne et d'ignorer presque jusqu'au matin de son mariage qu'il allait épouser parmi les sœurs de cette nombreuse famille.
Il est dans un banquet, il ne sait pas lequel va être sa femme.
Exactement. En fait, c'est totalement faux parce que les pourparlers existaient depuis 6 mois. Il y était certainement attrait et on venait de lui donner un grade de capitaine pour qu'il fasse un petit peu meilleure figure à l'occasion de son mariage, bien qu'il n'ait que 19 ou 20 ans à l'époque.
Enfin, il est tout de même de ceux qui a dénoncé le principe des mariages arrangés d'une manière qui nous paraît assez moderne, puisqu'il écrit quelque part « On apprend à une jeune fille à ne pas regarder un homme en face, à ne jamais demander comment elle est venue au monde. Arrivent deux hommes de loi, accompagnés d'un homme brodé sur toutes les coutures, et on dit à cet enfant « Passez la nuit avec ce monsieur ». Cet homme fait valoir ses droits, elle se lève le lendemain en pleurs, et lui en eau. » Fin de citation.
En sueur, effectivement, et les deux hommes de loi sont bien sûr les deux notaires des deux familles. C'était courant, malheureusement, à l'époque, que ces mariages arrangés, il fallait absolument qu'une famille princière en trouve une autre du même acabit, avec les mêmes relations à la cour, etc., et surtout une fortune qui permettait de dépenser les très grosses sommes que nécessitait leur train de maison.
Sur sa propre formation, écoutons-le pour la première fois, écoutons ce texte du prince de Ligne, qui est lu ici par Yves Gerbollet, dans Une vie, une œuvre de Philippe Garpy, sur France Culture, le 15 mars de l'an de grâce 1990.
Moins enfant, ne me souciant plus d'être un homme de cour, j'étais fier d'être devenu un homme de guerre. Je voyageais en uniforme complet, j'allais partout aux parades. Je faisais l'entendu. Je fus fait capitaine dans le régiment de mon père, malgré lui et tous les Liechtenstein. Pardon de cette digression. Me voilà de retour à Bruxelles. J'y suis amoureux et maladroit. J'y fais des étourderies et des gaucheries. Le carnaval le plus brillant. Mascarade que donne le prince Charles. Je suis Mars à celle de l'Olympe. Je crois que c'est d'un heureux augure car on parla de guerre. On m'envoie à ma garnison. Je monte ma première garde. C'est le plus beau jour de ma vie. La guerre se déclare. Et le second plus beau jour de ma vie, je me crois plus que tous les demi-dieux de la fable. Je marche fièrement à la tête de ma compagnie par un temps, un froid, une glace inconcevable. J'y fais dessus une chute terrible avec mon cheval, je fais mes embarras, ne me couche point pour veiller à la désertion ou courir après les déserteurs, et je passe le reste de l'hiver dans mon cantonnement des Ardennes, où des chevreuils, des loups et des fêtes au château d'Ansembourg, où l'on se ruinait pour me faire honneur, m'amusèrent infiniment. J'étais plus impertinent qu'insolent. Je crois que si j'avais eu un peu plus d'expérience et moins de cette timidité mêlée quelquefois à un peu de hardiesse maladroite, les demoiselles du château s'en seraient mieux trouvées encore. Je fus un peu plus audacieux avec une religieuse de Marienthal et je n'ai point appris qu'elle s'en soit mal trouvée.
Vous le trouvez là, Benoît Florin, votre prince de Ligne. La guerre a été essentielle.
Oui, quand il était jeune, il a dit qu'il était fou d'héroïsme. Il voulait succéder à César ou Grand Condé, à Eugène de Savoie, sous les ordres duquel son père avait combattu, ou Turenne.
Pas seulement, puisque je vois qu'il déclare à un moment donné « Je voudrais être jolie femme jusqu'à 30 ans, puis un général d'armée fort heureux et fort habile jusqu'à 60, et, attendez, et, vous allez voir, cardinal jusqu'à 80 ». Fin de citation.
Effectivement. Mais, général, il a été effectivement jusqu'à 60 ans. Son amour pour les femmes est bien sûr de notoriété publique. Il a connu effectivement tout ça, sauf l'aspect religieux. Il a été loin de terminer dans ce domaine. Il n'empêche que...
C'est un général qui n'a jamais vraiment commandé en chef tout au long d'une carrière et qui en a pourtant rêvé.
Exactement, c'est le grand regret de sa vie, il faut le dire, puisqu'il avait ses ambitions d'héroïsme. Il a été, bien sûr, un bon militaire, mais il n'a combattu véritablement que jusqu'au grade de colonel pendant la guerre de 7 ans. Il a commencé comme capitaine, il a terminé cette guerre de 7 ans à 27 ans comme colonel. Il a eu donc un assez joli parcours, il a participé à une dizaine de batailles. Par la suite, il n'a, vous le dites, jamais commandé en chef et il a été mis à la retraite relativement jeune, à 60 ans, parce que la maison d'Autriche se méfiait un petit peu de ses foucades.
Et pourtant, constamment, c'est un fait de cette époque, pour un personnage de ce type, la fête et la guerre sont toujours intimement mêlées.
Effectivement. Et il faut savoir que les opérations militaires s'interrompent chaque année, au moment de l'hiver. Et à ce moment-là, on retourne à la cour, on retourne chez soi, on fait effectivement la fête. Ou alors on fait la fête avec les officiers de son régiment, ce dont il ne s'est pas privé. Et il raconte même que l'homosexualité est courante et doit le rester. Ça évite aux jeunes officiers d'attraper des maladies vénériennes. Et il prend ça comme une formule, je dirais, de santé publique dans les armées. Et donc, on peut dire qu'il est relativement ouvert pour son époque. Ils font la guerre aussi bien que la fête.
Mais il fait cette guerre sous des uniformes très différents à cause de la nature même de sa nationalité, puisqu'il naît autrichien. Il est autrichien. Le Hainaut a été, au cours des siècles, sous 8 autorités différentes.
Il est attaché aux Habsbourg, et les Habsbourg, bien sûr, sont sur le trône de Vienne. Ils sont archiducs d'Autriche et, bien sûr, empereurs d'Allemagne en même temps. Donc, c'est l'Autriche qu'il sert toute sa vie. Et lorsque les Pays-Bas autrichiens deviennent français, il est évincé et il termine ses jours à Vienne.
Il a quand même porté un uniforme russe.
Effectivement, il a été très tenté de servir Catherine II à un moment donné. Et il a pensé même pouvoir commander ses armées. Mais le principal ministre de Catherine II, Potemkin, son amant et peut-être mari, n'a pas du tout aimé être évincé. Il n'en a fait qu'un officier de liaison. Donc,
nous y viendrons, parce que c'est un moment important, voilà. Cette époque de Crimée. Mais auparavant, je voudrais que vous évoquiez, Benoît Florin, ses relations avec le monde des écrivains que nous évoquions tout à l'heure, des académiciens, à la fois le désir d'en recueillir la gloire et de marquer sa propre différence. Ses relations avec Voltaire sont passionnantes.
Alors effectivement, une fois la guerre de 7 ans terminée, la guerre de 7 ans s'est terminée avec la défaite française.
Il avait 10 ans lorsqu'il a entendu quasiment le bruit de la bataille de Fontenoy.
Il était à Bruxelles, pas loin, et il a même vu un boulet de canon arriver jusqu'à l'hôtel particulier de son père. Et donc il a été élevé dans une culture de guerre et d'héroïsme.
Mais c'est la guerre de 7 ans, Benoît Florin. Elle se déroule entre 1756 et 1763, quasiment au mi-temps du XVIIIe siècle.
C'est une guerre où la France et l'Autriche sont alliées contre le vilain Prussien Frédéric II qui a envahi la Silésie et bientôt la Saxe. Et pour le prince de Ligne, tout va se passer en Saxe. Les campagnes ont lieu à cet endroit-là. Il participe même à un raid sur Berlin, un raid victorieux, mais qui ne dure pas. Et comme vous le savez, la guerre de 7 ans se termine par la défaite de la France, qui perd les Indes et le Canada, et bien sûr la primauté de sa langue à terme.
C'est la fin de l'apogée française en Europe au XVIIIe siècle, date fatale.
Ça ne se sent pas tout de suite, mais ça sera confirmé après les défaites de Napoléon. Et la primauté française se termine en deux temps, à la fin de la guerre de 7 ans et en 1815, à la fin des guerres de Napoléon.
Responsabilité éclatante de Louis XV et, on en discutera, de Bonaparte.
la France se remettra un petit peu avec un autre traité de Paris qui voit la victoire des États-Unis d'Amérique à laquelle il a beaucoup participé. Mais c'est un petit peu la fin de la primauté de la langue française puisque le Canada et les États-Unis parleront anglais et non pas français.
Le prince de Ligne fait beaucoup penser à la guerre. Il fait penser aussi à cet effort constant pour s'installer dans une Europe des lettres, de l'intelligence, en proximité et en différence par rapport, nous l'évoquions tout à l'heure, aux grands personnages du temps, aux philosophes, aux académiciens.
Alors, à défaut d'avoir pu faire carrière sur le plan militaire avec la paix revenue, il a envie d'avoir une carrière littéraire, car Voltaire est le plus grand homme de l'époque. La littérature, et surtout en France à ce moment-là. Donc, il va essayer de s'incruster dans cette République des Lettres qui est à son apogée à ce moment-là. Et il va commencer par s'inviter chez Voltaire à Ferney.
C'est-à-dire Ferney, je vous rappelle.
À Ferney-Voltaire, l'endroit où Voltaire s'est réfugié alors qu'il n'était pas en odeur de sainteté à la cour de Louis XV à cause de ses écrits, bien sûr, anti-absolutistes et également anti-religieux.
À la frontière de la Suisse.
À la frontière de la Suisse,
et de la
sûr,
France.
Et de la France, pour pouvoir s'échapper comme il le voulait, ce qu'il a fait à plusieurs reprises.
Eh bien, écoutez ce récit de la visite du prince de Ligne à Voltaire. Voltaire vieillissant et gloire universelle dans l'Europe tout entière.
Ce que je pouvais faire de mieux chez M. de Voltaire était de ne pas lui montrer de l'esprit. Je ne lui parlais que pour le faire parler. J'ai été 8 jours dans sa maison et je voudrais me rappeler les choses sublimes, simples, gaies, aimables qui partaient sans cesse de lui. Mais en vérité, c'est impossible. Je riais ou j'admirais. J'étais toujours dans l'ivresse. Jusqu'à ses torts, ses fausses connaissances, ses engouements, son manque de goût pour les beaux-arts, ses caprices, ses prétentions, ce qu'il ne pouvait pas être et ce qu'il était, tout était charmant, neuf, piquant et imprévu. Il souhaitait de passer pour un homme d'état profond ou pour un savant, au point de désirer d'être ennuyeux. Je me souviens qu'un jour que ses belles servantes suisses, nues jusqu'aux épaules à cause de la chaleur, passait à côté de moi ou m'apportait de la crème. Il s'interrompit et prenant en colère leur beau cou à pleine main, il s'écria « Gorge par-ci, gorge par-là, allez au diable !» Il était comique lorsqu'il faisait le seigneur de village. Il parlait à ses manants comme à des ambassadeurs de Rome ou des princes de la guerre de Troie. Il était toujours en souliers gris, bas gris de fer, roulé, grande veste de basin, longue jusqu'aux genoux, grande et longue perruque et petit bonnet de velours noir.
Et c'est toujours Yves Gerbollet qui lit ce texte dans l'émission de Philippe Garbi, Une vie, une œuvre, sur France Culture, le 15 mars 1990. Le portrait est assez efficace, Benoît Florin. Il a l'œil, ce seigneur de bel œil.
Il est même relativement impertinent à l'égard du grand homme qu'est Voltaire, qui est adulé de l'Europe entière. Et il faut dire quand même que Voltaire va utiliser un tout petit peu le prince de Ligne dans la publication de son fameux conte Candide.
Ah oui.
Et puisque le prince de Ligne lui a certainement raconté ses campagnes, les campagnes qui viennent de terminer, où il est allé à la guerre un petit peu en dilettante, en chantant
«
Mon Dieu que la guerre est jolie », pour reprendre le vers d'Apollinaire, ou cette guerre en dentelle, qui en fait n'était pas si en dentelle que ça, puisqu'elle était quand même assez abominable, l'immortalité était quand même assez importante. Il est vraisemblable que Voltaire se soit inspiré de l'expérience vécue du prince de Ligne, du jeune prince de Ligne en visite, pour son conte Candide. Mais plus curieux encore est la visite que le prince de Ligne fait ensuite à Rousseau, dans sa mansarde au 6e étage de l'actuelle rue Jean-Jacques Rousseau à Paris. Et Rousseau est l'inverse de Voltaire, c'est son ennemi en plus. C'est un misanthrope, il souffre d'une maladie de la persécution. Et il s'est réfugié dans différents endroits avant de se retrouver dans cette chambre de bonne, pratiquement, avec son ex-servante qu'il a fini par épouser. Et le prince de Ligne réussit beaucoup moins, bien sûr, envers cet homme acide qui n'a réussi avec Voltaire, avec lequel il continue à échanger une correspondance régulière.
Qui est flatté quand même par l'attention de du
il
prince.
Il est quand même flatté parce que Rousseau...
Le grand seigneur.
Voilà, il est flatté qu'un grand seigneur le visite et le sollicite et lui propose même de finir ses jours dans ses terres, chez lui, où il pourra raconter n'importe quoi s'il en a envie, puisque le prince de Ligne est souverain dans une petite terre de Belgique près de l'évêché de Liège, tout à fait en dehors de Belœil. Mais Rousseau dénie cette invitation. C'est publié, on se moque un tout petit peu du prince de Ligne à cette occasion qui a voulu faire parler de lui. Il n'empêche que...
Et encore, chacun utilise en quelque sorte la notoriété de l'autre
pour... C'est exactement ça.
Pour en tirer avantage.
Et ce qui est amusant, c'est que le prince de Ligne dit que Rousseau aurait ennobli jusqu'à un morceau de fromage s'il avait parlé. Et le mythe de Rousseau est presque aussi important que celui de Voltaire à l'époque. Bien que ce ne soient pas du tout les mêmes personnages.
Il faudrait que nous évoquions, en dehors des périodes de guerre, la manière dont vit au quotidien notre prince de Ligne, en particulier à Paris. Paris qui est le centre de l'Europe qu'il aime, et où il va être heureux, le jeu, la prostitution, la cour, les relations avec Versailles. Évoquez tout cela, s'il vous plaît, Benoît Florin.
Vous avez tout dit. Et effectivement, après la guerre de 7 ans, il découvre Paris. Son père est mort. Il se retrouve à la tête d'une fortune assez colossale. Il n'est plus obligé d'emprunter et de faire des dettes. Et il peut mener un grand train de vie, à la fois à Bruxelles et surtout à Paris, où il passe la majorité de son temps. Il découvre le duc de Chartres. Le duc de Chartres, c'est le futur Philippe Égalité, le père du roi Louis-Philippe, et le futur révolutionnaire, celui qui vote la mort de son cousin sous la Révolution, et qui pour l'instant est un jeune homme débauché. Et avec celui-ci et ses amis, il participe à toutes les folies possibles et imaginables au sein du palais royal ou dans les petites maisons qu'il loue avec des prostituées qu'il loue également. Et c'est l'alcool, c'est le jeu, c'est les duels, fort peu pour le prince de Ligne, mais il en a quand même un assez important. Et,
il a d'ailleurs un propos qui est surprenant. Aujourd'hui, il distingue les débauchés et les libertins. Il dit « je n'aime pas les libertins, je me sens de la catégorie des débauchés ».
En fait, pour moi, un débauché, c'est pire qu'un libertin. Pour lui, c'est l'inverse.
Pour vous, Benoît Florin?
Oui.
C'est une déclaration personnelle dont nous prenons acte.
Voilà. Mais la débauche, c'est quand même... pire, à mon avis, que le libertinage et le papillonnage, mais...
Libertinage voulait dire aussi qu'on ne croyait pas en Dieu, allez, pour moi, c'est une autre affaire. Mais précisez alors ce propos, si vous le voulez bien, chacun va être curieux de votre explication.
Lui estime que la débauche est provisoire et qu'après, on peut redevenir un homme normal, attaché à ce qu'il faut faire, etc. Et que le libertinage, en revanche, est un vice permanent. Personnellement, j'aurais dit inverse, mais deux siècles après, peut-être que les notions sont différentes.
Donc, il vit à Paris. Il est en même temps, il s'approche de la franc-maçonnerie.
Effectivement, son ami, le duc de Chartres, était du grand maître de la franc-maçonnerie. Donc, il est un petit peu obligé d'y adhérer.
Le Grand Orient.
Et des deux, la Grande Loge de France et du Grand Orient. Et il va lui-même adhérer à une dizaine de loges, aussi bien dans les Pays-Bas autrichiens qu'à Paris ou à l'armée. Tout le monde fait partie de la franc-maçonnerie à l'époque. C'est un mouvement qui regroupe toutes les élites. D'abord les grands seigneurs jusqu'aux bourgeois des petites villes à la veille de la Révolution française. Mais ils s'en moquent de la franc-maçonnerie. Ils se moquent un petit peu de ses rites, de ses rites de passage. Et il fait exprès de faire trébucher les impétrants au moment de leur réception, de les faire tomber, de les piquer avec un cure-dent, etc.
Bon. Ce prince de Ligne, Benoît Florin, il joue de toute la gamme des bonheurs possibles, jusqu'à écrire des chansons. En voici une qui a été retrouvée et qui s'intitule « Avez-vous chanté la lune ?». Elle est interprétée par le trio Chantecler en 1962. Voilà maintenant le prince de Ligne en parolier.
« Avez-vous chanté la lune ?» me disait-on l'autre jour. L'envie en est si commune que chacun lutte à son tour. Non, dis-je, pour confidente, mon amour n'en veut jamais. Et ma tendresse éclatante n'aime pas ses doux reflets. Je veux que celle que j'aime soutienne le plus grand jour. Je veux que le soleil même soit jaloux de mon amour. S'il venait à disparaître, mon cœur, je crois, suffirait. on croirait le voir renaître, tant sa chaleur brûlerait. Cette lune qu'on célèbre si souvent en joli vert n'a qu'une pâleur funèbre éclairant mal l'univers. Elle n'est jamais la même, ses caprices différents font qu'on quitte ce qu'on aime, c'est l'astre des inconstants. Son croissant n'est que l'image du malheur de tant d'époux, et la lune en plein visage est un signal pour les fous. Du soleil ou de mon âme, je recommande les feux. Que de mes ardeurs la flamme consume ce que je veux.
On est bien dans l'air du temps.
J'ignorais qu'il avait écrit les paroles de cette chanson. Il est plus connu pour ses pamphlets ou pour ses textes relativement courts. Et je vous remercie d'avoir redécouvert ces jolis sonnets. Mais bien plus que ça, c'est un amoureux du théâtre et surtout des actrices. Pour lui, le théâtre, c'est aussi le théâtre de l'amour. C'est d'abord un théoricien. Il fait des pièces qui n'ont aucun succès, comme beaucoup d'autres. Il a écrit des pièces, mais n'ont guère de succès. Il les produit parce qu'il est riche et il peut le faire. Et surtout, il est amoureux d'actrices. D'abord, La Dervieux à Paris. La Dervieux, c'est une des grandes actrices qui se partage avec le prince de Conti et puis le maréchal de Soubise. Il lui offre un carrosse et lui suggère de se faire rembourser les deux autres tiers par ses deux autres amants. Mais il rêvait de ce carrosse pour aller parader à la promenade de Longchamp, donc il le fait. Et après, il promeut beaucoup le théâtre de la Monnaie à Bruxelles, qui est presque aussi connu à l'époque que la Comédie Française.
Qu'il est toujours.
Et qu'il est toujours, mais qu'il est déjà. Et il tombe amoureux successivement de deux sœurs. Ce sont les sœurs d'Anter. Leur père s'appelle Servan-Denis d'Anter. Leur père, est le fils de celui qui a construit l'église Saint-Sulpice à Paris, fils naturel. Et il a eu lui-même deux filles, actrices. Le père est directeur du théâtre de la Monnaie. Il a mis, bien sûr, très jeune, ses filles sur les planches. Donc, il est d'abord l'amant d'Eugénie pendant 2 ou 3 ans. Puis celui d'Angélique, et on peut dire que c'est un peu la seule femme dont il sera vraiment amoureux dans sa vie et qui regrettera d'avoir quitté, il est vrai, pour quelqu'un de bien plus important qui est Marie-Antoinette, mais on en parlera tout à l'heure.
Vous n'allez pas faire le Leporello pour nous citer toutes les maîtresses du prince de ligne?
Non, mais celles-ci ont compté un petit peu.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
C'est aussi un homme de cour, qui aime la cour. Versailles, pour lui, c'est un grand moment. Et il apparaît comme un nouveau favori.
Effectivement.
En fait.
Effectivement, il découvre Versailles dans les années 1776 et à la mort de Louis XV. Et il ne va guère cesser de fréquenter la cour de France à partir de ce moment-là.
Mais il a décrit les courtisans à peu près comme Saint-Simon avait décrit les courtisans au moment de la mort de Louis XIV.
Exactement.
Il écrit « Versailles était la lanterne magique la plus curieuse qu'on ait jamais vue. On n'y avait pas oublié la chambre obscure. On courait à la mort du roi comme à la mort du cerf. Il y pleuvait des évêques et des lavements pour évacuer les intestins du malade. Il y avait de quoi mourir de rire ou de pleurer. » Fin de citation.
Effectivement. On sait que les derniers jours de Louis XV ont été assez sportifs, si j'ose dire, et puisqu'on cherchait absolument à ce qu'il renonce, qu'il revienne dans la religion catholique. On lui a envoyé évêque sur évêque.
Et alors, il y a ensuite l'affection pour Marie-Antoinette qui est importante.
Après la mort de Louis XV, effectivement, il découvre Marie-Antoinette. Il est introduit auprès d'elle par le très jeune comte d'Artois, qu'il a rencontré en garnison près de Bruxelles, à Valenciennes exactement, le futur Charles X. Et il devient très rapidement un favori de Marie-Antoinette, qui a une petite cour de 5 ou 6 favoris. Tous d'anciens héros de la guerre de 7 ans, même s'ils traînent maintenant leurs talons rouges sur les parquets de Versailles et en montent et descendent les escaliers, ils sont tous assez méritants au départ. Et c'est la coterie des Polignac, du baron de Bessinval, du duc de Coigny, etc. tous ces jeunes hommes papillonnent autour de la charmante reine, qui n'en est pas moins sérieuse, mais qui aime s'entourer de ces gens gays qui changent les idées. Et le prince de Ligne, en plus, lui rappelle la cour de Vienne, puisqu'il a été attaché à sa mère Marie-Thérèse, l'impératrice Marie-Thérèse, et il tient une place importante auprès d'elle. À tel point que l'impératrice Marie-Thérèse s'en inquiète et elle demande à sa fille d'éloigner le prince de Ligne pendant quelque temps, de le renvoyer à sa garnison de Belgique ou des États, des provinces autrichiennes. Et il s'y rend. Mais il revient au galop aussitôt. Il parcourt la distance de Bruxelles à Paris plusieurs fois en 24 heures, aller-retour, juste pour retrouver la reine un soir à l'opéra.
Le galop, l'expression est bienvenue. Il ne cesse pas de galoper à travers l'Europe, notre prince de Ligne. Le nombre de kilomètres qu'il a passé dans ses berlines, joyeusement d'ailleurs, est tout à fait frappant. Et on arrive à ce qui peut apparaître comme une sorte d'apogée, un apogée de son influence militaire et sinon diplomatique, ce sont ses relations avec Catherine II.
Il fait un premier voyage dans les années 1780 en Russie. Il y va spontanément pour essayer de récupérer les immenses terres de sa belle-fille. Sa belle-fille est polonaise.
Il va être déçu, là.
Et là, il est relativement déçu. Il n'y arrive pas, mais il se fait connaître de Catherine II. Il se fait apprécier par Catherine II. Il découvre Potemkin. Il fait la fête à Saint-Pétersbourg, bien sûr, mais c'est relativement bien vu. Et Catherine II est très francophile, puisque elle était appréciée de Diderot et de Voltaire, même si elle ne voulait pas de ces philosophes chez elle. Elle les aimait à distance. Le voyage se passe donc extrêmement bien, à tel point qu'elle l'invite, 5 ans plus tard, à un voyage inoubliable en Crimée, un voyage qui est un petit peu un conte des mille et une nuits, auquel il va participer et dont il va être l'un des phares.
Alors là, il faut le raconter un peu en détail, parce qu'on y voit très bien se développer, s'épanouir, cette personnalité remarquable qu'est celle du prince de Ligne dont nous parlons ce matin. L'expédition de Crimée, rappelez les circonstances, si vous le voulez bien, Benoît Cornet.
C'est l'époque où Joseph II, son empereur, et fils de Marie-Thérèse d'Autriche et frère de Marie-Antoinette, se rapproche de Catherine II, qui prend une place de plus en plus importante sur le théâtre européen. Et Joseph II vient de rencontrer Catherine II et va la rencontrer à nouveau et l'accompagne sur ce voyage un petit peu triomphal qu'elle veut faire dans ses nouvelles possessions d'Ukraine et de Crimée. La Crimée a été conquise peu avant par Potemkin, et celui-ci a organisé un grand périple, comme je vous le disais, un véritable conte des mille et une nuits, qui regroupe 200 à 300 voitures, puis une centaine de navires qui descendent le Dniepre en Ukraine,
on
quitte ensuite les Cosaques pour arriver en pays tatar, et c'est la Crimée récemment conquise, cette fameuse Crimée de Potemkin.
Alors Potemkin, rappelez-nous, puisque c'est très célèbre, Potemkin, et vous nous montrez bien que c'est un peu légendaire l'idée qu'il aurait entièrement transformé la campagne pour démontrer qu'elle était prospère alors qu'elle ne l'était pas. C'est un peu plus sommaire, non?
Alors, en fait, Potemkin a certainement bien arrangé les choses. Il a commencé à construire des villes en Crimée, mais il n'existait que la rue principale. Les rues de derrière étaient des décors, d'où cette expression de décor Potemkin aujourd'hui pour parler de ce qui est faux ou de ce qui est fictif. Mais il y avait quand même du vrai là-dedans. Le prince de Ligne a été attiré par Catherine II pour promouvoir sa politique et sa politique de conquête, parce qu'on veut en faire une nouvelle impératrice d'Orient jusqu'à Constantinople, l'ex-Constantinople.
Russie et Crimée déjà.
Exactement. Et c'est une permanence dans ces régimes autoritaires russes, puis soviétiques, que d'attirer des intellectuels ou des grands personnages français en voyage comme ça. Souvenons-nous de Gide au XXe siècle qui a été attiré par ça, ou d'autres compagnons du communisme.
C'est vrai que dans les années 30, ces voyages d'intellectuels évoquent un peu cela.
Et l'attirance pour des hommes politiques européens qu'on attire en Russie également avec des fonctions plus ou moins fictives et plus récentes.
Pour le prince de Ligne, c'est un moment essentiel. Et nous avons une très belle lettre qui remonte à cette époque à la marquise de Coigny, qui d'ailleurs est probablement antérieure. C'est la 5e lettre de Crimée, été 1787, et qui est lue ici par Pascal Tison dans un documentaire qu'elle avait fait donner à la RTBF et qui avait été diffusé dans les échos de la planète francophone sur France Culture le 6 février 2005.
Tout ce qui se passe dans mon âme ne peut se concevoir. Je me sens un nouvel être, échappé aux grandeurs, au tumulte des fêtes, à la fatigue des plaisirs et aux deux majestés impériales de l'Occident et du Nord que j'avais laissées de l'autre côté des montagnes dont la chaîne se lie à peu de choses près au mont fameux par le supplice de Prométhée, je jouis enfin de moi-même. Je me demande où je suis et par quel hasard je m'y trouve. Cela me donne occasion de rentrer en moi-même et sans m'en douter, je fais une récapitulation de toutes les inconséquences de ma vie. Je juge le monde et le considère comme les ombres chinoises en attendant le moment que le temps, levant sa faux tranchante, ordonne de disparaître. 9 ou 10 campagnes que j'ai faites, 12 de batailles ou d'affaires que j'ai vues, viennent ensuite se présenter à moi comme un songe. Je pense au néant de la gloire, qu'on ignore, qu'on oublie, qu'on envie, qu'on attaque, ou qu'on révoque en doute. Et une partie de ma vie, pourtant, me dis-je à moi-même, s'est passée à chercher à la perdre, cette vie, en courant après cette gloire. Je n'attaque pas ma valeur. Elle est peut-être assez brillante, mais je ne la trouve pas assez pure. Il y entre de la charlatanerie. J'aime mieux la valeur de mon cher bon Charles, qui ne regarde pas si on le regarde. Je m'examine encore. Je me trouve 20 de défauts. Ensuite, je pense au néant de l'ambition. La mort m'a enlevé ou m'enlèvera bientôt la faveur de quelques grands hommes de guerre et de quelques grands souverains. Sans regret pour le passé ni crainte pour l'avenir, je laisse aller mon présent au courant de ma destinée. Après m'être bien moqué de mon peu de mérite et de mes aventures de cour et d'armée, je me souviens que je me félicitais de n'être pas encore pis que je suis et du grand talent de tirer parti de tout pour mon bonheur.
Cette façon, Benoît Florin, qu'il a de faire toujours bouger, si je puis dire, le calque sur le trait, de jamais paraître dupe, me paraît au centre de la personnalité du prince de ligne dont vous avez écrit la biographie pour notre satisfaction.
Alors c'est vrai, il fait une rétrospective de sa vie passée, il se rend compte qu'elle est relativement futile, que ses envies de gloire ou d'ambition ne sont rien par rapport à la profondeur d'une existence. Il fait un petit peu du Chateaubriand avant la lettre, mais c'est quand même assez amusant de voir cette réflexion de sa part, que le chant de la futilité dénonce la futilité des choses.
Alors survient la grande révolution. Pour le prince de Ligne, ce n'est pas un moment heureux, même si il ne revient pas en France à partir de 1787. C'est une suite de douleurs et de malheurs. Le beau temps de l'apogée de ses satisfactions est passé, en tout cas pour un temps.
Il fait les mauvais choix. Un tout petit peu avant la Révolution, il décide de rester en Russie et il espère commander l'armée russe qui va attaquer les forces turques à Otchakov, au sud, sur la mer Noire. Mais il est évincé par Potemkin, qui n'entend pas du tout se faire marcher sur les pieds. Et tel le colonel Drago du désert des Tartares, de Dino Buzzati, il quitte le siège deux ou trois mois ou quelques semaines avant finalement que la ville soit emportée.
Il n'a pas attendu assez longtemps.
Il n'a pas attendu assez longtemps, encore une fois, pour avoir de la gloire. Il se retrouve au siège de Belgrade, de l'autre côté, avec les troupes autrichiennes, mais il ne fait que commander l'artillerie. Il n'a toujours pas ce commandement en chef qu'il espérait.
Des mauvais choix, beaucoup de craquements.
Après, la Belgique se soulève. Et il fait une lettre à sa femme pour ménager la chèvre et le chou et pour se féliciter de ce que les troupes autrichiennes ont été chassées de Belgique et que la Belgique devient indépendante et que l'État belge se crée. Et il a effectivement quand même toute sa fortune là-bas, à Bruxelles et à Belœil. Donc il doit ménager les nouveaux gouvernants de son pays natal. Mais c'est très mal vu, bien sûr, de la part de l'empereur Joseph II qui le révoque, qui le met en quarantaine. Et après ça, il n'aura plus jamais de commandement militaire. En 1792, tout à fait au début de la guerre contre la toute jeune République française, son fils meurt en chargeant à la tête de ses hussards une batterie de canons.
Autant son père ne l'avait pas aimé, autant lui avait chéri le sien.
Il admirait profondément son fils et le fait que son fils soit extrêmement audacieux, peut-être plus que lui encore, dans ses précédentes campagnes militaires, et monter à l'assaut des murailles, toujours le premier.
Il a voulu montrer toujours qu'il surmontait ses malheurs. Ses malheurs ne l'ont pas épargné.
Alors, ce malheur est le plus grand de sa vie, vraisemblablement. Et pendant quelques mois, ça l'assomme. Il finit par reprendre le dessus. Et sa bonne éducation fait que il ne veut pas renoncer à sa gaieté naturelle, malgré le fait qu'il ait perdu sa fortune en Belgique à cause de la Révolution française, perdu son fils adoré, et perdu la possibilité de se battre contre les Français en étant dénué de tout commandement à partir de là.
Il y a ce moment sur lequel il faut s'attarder, et qui est celui de sa rencontre avec Casanova. Leur origine sociale est tout à fait différente, mais il y a des points communs, et même s'il y a 20 ans de différence d'âge, une sorte d'affinité rare se crée entre eux, et ils jouent un rôle important dans l'élaboration, dans l'émergence des mémoires immortelles de Casanova.
Vous avez tout dit. Le prince de Ligne, à partir de 1794, n'a plus grand-chose à faire, donc il se met à écrire. Il se met à reprendre un petit peu la chronologie de sa vie. Il rencontre à Teplitz, la station thermale à la mode, qui appartient d'ailleurs à sa fille et à son gendre, le prince de Clarey-Aldringen, vraiment le Saint-Tropez local, si j'ose dire. Il rencontre Casanova. Casanova est à quelques kilomètres de là. Il finit ses jours un petit peu misérablement comme bibliothécaire chez un neveu de la femme du prince de Ligne, qu'il a recueilli et qu'il nourrit. Et de là, il va régulièrement à Teplitz. Et les deux hommes se rencontrent.
C'est le lieu.
Le lieu où ils se rencontrent, cette fameuse station thermale où le prince de Ligne va passer désormais tous ses étés. Où Casanova a écrit ses mémoires et à n'en rien cacher. Et les deux hommes se ressemblent. Ils ont vécu vraiment dans les mêmes villes. Ils ont voyagé autant l'un que l'autre. Et ils ont, bien sûr, eu autant d'aventures féminines l'un que l'autre.
Et ils se sont situés l'un et l'autre un peu à distance du milieu des philosophes et des écrivains. Que toujours ces hommes d'esprit dont nous parlions tout à l'heure, même si, évidemment, Casanova n'a pas une origine noble comme celle du prince de Ligne. Écoutez donc cette lettre que le prince adresse à Casanova en septembre 1794. Elle est lue ici par Yves Gerbollet dans Une vie, une œuvre de Philippe Garbi à nouveau sur France Culture en mars 1990.
À Casanova, Vienne, ce 17 décembre 1794. Quoique je sois dans l'heureuse situation de ne recevoir ni de donner d'ordre à personne, je me suis avisé de vous en donner un, mon cher Casanova. Non de par le roi, mais de par mon cœur. Et vous ne m'avez pas obéi. C'était de ne plus me parler de votre fin qui, heureusement, est diablement éloignée. Vous vous êtes si bien trouvé de n'être pas châtré, pourquoi voulez-vous que vos ouvrages le soient? Laissez l'histoire de votre vie comme elle est. D'ici à ce que vous la fassiez imprimer, le peu de personnes vivantes ne le seront plus ou auront oublié ces anecdotes qui s'éloignent d'elles de plus en plus. Nous n'aurions pas l'histoire amoureuse des Gaules si Bussy avait voulu, comme vous, brûler ses mémoires. Faites comme moi, vendez-vous de votre vivant, portez votre manuscrit au frère Walter à Dresde. Qu'il vous en donne sans du cas de rente viagère, au moins, s'il le faut absolument, et quand dans 20 ans vous partirez d'ici, vos charmantes mémoires leur en vaudront 4 ou 5 000 pour le moins. Dites que vous les avez brûlées, mettez-vous au lit, faites venir un capucin, et qu'il jette quelques rames de papier dans le feu en disant que vous sacrifiez vos ouvrages à la Vierge Marie. Je ne vous dirai jamais assez, mon cher ami, à quel point je vous suis tendrement attaché.
Vous me disiez regretter qu'un autre extrait de la lettre ne soit pas donné?
Alors, il y a deux autres propos du prince de Ligne à l'égard de Casanova, quand il attend avec impatience sa production et de lire en avant-première les différents tomes de la vie de Casanova. En ce qui concerne mon cœur, mon esprit, mes couilles, vous baisse les mains pour l'envoi de ce troisième tome, mon cher Casanova. Et il avait déjà dit pour le tome 2, un tiers de ce tome 2, mon cher ami, m'a fait rire, un tiers m'a fait bander, un tiers m'a fait penser. C'est dire la complicité entre ces deux anciens séducteurs professionnels.
On arrive au début du 19e siècle, qui est un dernier rebond du côté plutôt de la littérature d'ailleurs, et aussi de la diplomatie du prince de Ligne. C'est le temps où il écrit « Il ne tient qu'à moi d'être vieux. J'ai de quoi. Mais j'ai dit, je ne le suis pas et cela me réussit. On peut s'empêcher au moins d'être un vieillard. C'est la paresse de corps et d'esprit qui la constitue. Tant pis, pour ceux qui s'y laissent aller. Je me dis aussi, je ne veux pas mourir, je ne sais pas comment cela réussira. » Fin de citation.
C'est sa vitalité, en fait, qui fait l'admiration de ses contemporains. Et c'est assez rare de voir des hommes qui vieillissent et qui restent jeunes d'esprit et qui restent gais. Et donc, en ce sens, il est un modèle.
C'est aussi le temps où sa gloire littéraire s'épanouit, en tout cas sa notoriété littéraire, grâce, j'en disais un mot tout à l'heure, à Madame de Staël, qui publie ses œuvres, un choix de ses œuvres, et qui donne cette préface que je vais vous citer car elle est topique. Le prince de Ligne est reconnu par tous les Français comme un des hommes les plus dignes d'être aimé. Il est peut-être le seul étranger qui, dans le genre français, soit devenu modèle au lieu d'être imitateur. Il y a toujours de l'esprit et du génie, de l'esprit et du génie dans tout ce qui vient de lui. Tout ce mélange du sérieux et de la gaieté, de la plaisanterie et de la raison, de la légèreté et de la profondeur font du prince de Ligne un véritable phénomène. C'est ce phénomène, Benoît Florin, que nous considérons ce matin.
Madame de Staël l'a véritablement révélé. Jusque-là, il publiait, mais il n'était pas lu. Et en faisant la synthèse en deux volumes des 32 volumes qu'il a déjà écrits, en retenant le meilleur, elle lui donne la gloire littéraire qui lui manquait et qui va suppléer largement à la gloire militaire qu'il n'a jamais eue.
En face de Napoléon, le prince de Ligne a une attitude assez ambivalente. Il est à la fois fasciné et il éprouve de la répulsion. Il lui en veut d'avoir mis fin à cette Europe qu'il avait tant aimée. En même temps, il est fasciné par le héros, au sens militaire du terme.
C'est plutôt la Révolution qui a détruit son monde. Napoléon est un bâtisseur, est un grand capitaine. Il admire tous les grands capitaines. Il admire sa façon de combattre, ce dont il arrive à tirer de ses soldats, et il est presque un petit peu trop admiratif, ce qui lui pose des problèmes quand des troupes françaises occupent Vienne à deux reprises, en 1805 et en 1809, sauf erreur.
On lui reproche
presque, en tout cas, d'être trop admiratif. Il l'est jusqu'à la campagne de Russie. À partir de la campagne de Russie, il s'aperçoit des dérives du personnage et sa chute imminente et il change d'avis.
Et on en arrive doucement au dernier moment, c'est-à-dire symboliquement le congrès de Vienne, et où il va apparaître important, danser et mourir.
Il est le symbole du congrès de Vienne. Le congrès de Vienne marque la fin véritable du XVIIIe siècle, comme la guerre de 1914 marquera la fin du XIXe. Alors, il débute en septembre 1814 et il se termine au moment des 100 jours, au printemps 1815. Ce congrès de Vienne réunit empereurs, rois, princes, archiducs, ministres, généraux. Et le congrès de Vienne ne marche pas, il danse. C'est la formule qu'il a lui-même donnée, toujours avec son sens du mot ou son esprit bien connu. Lui-même ne rate aucun bal, aucun quadrille, c'est les valses de Vienne, c'est les jolies femmes. Il court toujours après, il court notamment après une Madame Panam, dont le nom est symptomatique, puisque c'est aussi en argot la façon dont on appelle Paris. Et à près de 80 ans, il finit par prendre froid en courant après les majestés, après les femmes, après les quadrilles, et il s'alite. Et son agonie est un événement dans le congrès de Vienne. On en parle tous les jours jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Et son enterrement est quasiment royal.
Il devient, pour finir, une sorte de symbole. Et on a le regard de deux de ses contemporains. L'un est Custine, que nous avons considéré dans une de ses émissions à propos de son regard sur la Russie, et qui est là, et qui, dans une lettre du 10 décembre 1814 à sa mère, annonce le décès imminent du prince, un événement qui lui paraît inconcevable, tant on avait fini par croire l'homme immortel. Il dit « Le prince de Ligne se meurt, première victime du congrès, qu'il a achevé par ses bals et par ses dîners. » Et son ami, le comte de Ségur, un des aristocrates qui avait rallié Napoléon, écrit au même moment « En vain cherchera-t-on dans toutes les cours d'Europe un jeune homme aussi aimable que le prince de Ligne l'était à 80 ans. Toute sa vie n'a été qu'une longue jeunesse. Il existe donc quelques privilégiés, comme certains climats où règne un éternel printemps, dont les arbres toujours verts portent en tout temps à la fois des feuilles, des fleurs et des fruits. Ça vous convient, Benoît Florin ? Votre homme portait des fleurs, des fruits et des feuilles ?
Certainement, c'est l'image qu'il laisse et qu'il a sans doute voulu laisser. Je voudrais terminer par son enterrement qui est vraiment royal. Il y a 10 000 hommes de troupes qui l'accompagnent jusqu'à cette dernière demeure en dehors des murs de Vienne. Sur les remparts de Vienne, à moitié démolis par Napoléon lors de ses précédentes occupations, il y a deux empereurs qui le regardent. Et il y a plusieurs rois, des archiducs, des ministres, des généraux qui suivent du regard ce catafalque qui avance sur la neige blanche. Et avec son cheval de bataille derrière, c'est quelque chose de tout à fait grandiose. Et c'est une belle image qu'il aurait aimé voir lui-même.
On aurait pu le citer lorsqu'il disait « C'est souvent le plus frivole qui est le plus essentiel ».
Oui, on peut dire que c'est un petit peu son mantra.
Eh bien, ce sera notre dernier mot que nous avons laissé naturellement au prince de Ligne. Merci de votre présence à ce micro, Benoît Florin. Votre ouvrage s'appelle « Le prince de Ligne, l'esprit des Lumières ». Il vient de paraître il y a quelques mois aux éditions Perrin. D'autres vous ont précédé dans ce chemin. Je crois qu'il faut rendre hommage en particulier à l'ouvrage de Philippe Mancel, qui s'appelait « Le prince de Ligne, le charmeur de l'Europe », paru également chez Perrin en 2002. Vous lui rendez souvent hommage.
Oui, ça a été vraiment le grand biographe, mais depuis une vingtaine d'années, presque 30 ans, beaucoup de nouveaux éléments sont apparus sur le prince de Ligne qui méritaient cette nouvelle biographie.
Oui, il y a eu des éditions d'ailleurs assez nombreuses. Je pense en particulier à ce beau gros livre des mémoires, lettres et pensées de prince de Ligne qui avait été publié aux éditions François Bourin en 1989 avec une préface très pertinente de Chantal Thomas.
Oui, Chantal Thomas a également préfacé les mémoires du prince de Ligne au Mercure de France, qui sont les plus lisibles, avec un bel appareil critique.
On peut signaler aussi que Paul Morand avait publié un essai sur le prince de Ligne, il devait s'y retrouver quelque peu, l'homme pressé.
Oui, avide de voyage, Paul Morand était tout à fait motivé pour faire une petite biographie du prince de Ligne. Mais parmi les successeurs du prince de Ligne, j'aimerais citer Jean d'Ormesson, qui avait son aisance et sa légèreté sous une réelle profondeur.
Et chacun pourra trouver en ligne diverses éditions chez Champion ou ailleurs très précieuses qui permettent de compléter le corpus de l'œuvre du prince de Ligne. Et puis alors, il faut que vous nous disiez un mot de votre biographie antérieure, Benoît Florin, votre biographie du maréchal de Richelieu, libertin et seigneur de guerre au temps des Lumières, toujours aux éditions Perrin, vous êtes infidèle. Le personnage rappelle un peu Ligne, comment feriez-vous un parallèle ?
Ce maréchal de Richelieu, qui était l'arrière-petit-neveu du cardinal, a une vie assez extraordinaire, fort longue. Il a commandé en chef les armées, mais il en a été évincé pendant la guerre de 7 ans. Donc il a eu un petit peu les mêmes déboires que le prince de Ligne. Il a eu environ 130 maîtresses, soit vraisemblablement davantage que notre homme. Certaines allaient le voir pour voir si sa réputation était vraiment à la hauteur et pour le vérifier. Et cet homme est mort très âgé, à 88 ou 89 ans, après s'être marié pour la troisième fois avec une très jeune femme.
Pour finir, je dirais que nous ne sommes pas forcément contraints, Benoît Florin, de ratifier le propos du prince de Ligne quand il disait « La France n'est devenue ingouvernable que depuis qu'elle a, malheureusement, cessé d'être frivole ». Fin de citation. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Vincent Abouchard, avec Guillaume Leplège à la prise de son, Célian Guillemard à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.